CFM Villefranche, le mag.
Allez, bonjour à toutes et à tous. Vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Le mag du lundi, de bon début de semaine. Le mag Aveyron, le mag santé, le mag bien-être, le mag mieux-être et le mag assiette avec Karine Weck pour commencer. Nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. Bonjour Karine.
Bonjour David, la grande forme ce matin.
Comment ça va vous? C'est la dernière ligne droite, là, le mois de juillet, je vais vous dire, là, c'est tout chousse pour
ça,
rejoindre.
Ça
oh ouais, là, non mais. Ça va vous?
Oui, puis en plus, c'est le jour du menu, vous aimez bien en général.
Il y a bagarre. Non, je taquine gentil, mais j'adore ce que vous faites, Karine. J'adore vos boucles d'oreilles, j'adore ce que vous faites. Vous êtes la nutritionniste pomme pot girl connectée et vous avez besoin d'être réconfortée un peu des fois. Voilà, j'aime vos menus.
Ah ben super, alors je me détends.
Allez-y.
Parce que ça me crée une certaine pression, David. Bon, j'ai peur que votre joie ne retombe très vite parce que je vous connais un petit peu.
Allez non, là, vous nous faites un truc chouette, un truc en mode barbecue, là, c'est l'été. Oh.
Bon, le petit déjeuner, ouais. Rapide, on imagine qu'on est quand même en vacances, on est au mois de juillet, en effet.
On prend son temps, pas rapide.
On prend son temps, non mais surtout on se lève tard, ouais. Enfin, ou en tous les cas plus tard que sur le rythme scolaire. Donc c'est vrai que souvent c'est une question ça, je me lève plus tard, est-ce que je dois avoir un petit déjeuner qui soit à l'identique que le reste de l'année, dans la mesure où je vais déjeuner, le délai entre les deux va être plus raccourci. Bon, donc j'ai imaginé pour aujourd'hui un smoothie avec de la banane, parce que ça peut être rafraîchissant, ça se boit, ça s'hydrate, c'est vite fait, ça peut être, alors ça cale parce qu'il y a la banane, donc c'est une source d'amidon, ouais. Sans pour autant être voilà, quelque chose de lourd comme du pain par exemple. Je vous rappelle aussi qu'il y a plein de gens qui n'ont pas faim le matin et qu'on essaye de co-construire à rompre quand même un tout petit peu le jeûne.
Au moins s'hydrater.
Voilà, au moins s'hydrater. Et dans ce cadre-là, le smoothie, effectivement, peut être... voilà. Alors, je mets un petit bémol. C'est bien quand même de pouvoir le faire à la maison, en effet, parce que les smoothies qu'on va trouver dans le commerce, souvent, vont avoir du sucre ajouté.
Ah oui.
Alors que si on le fait soi-même, les sucres, les fruits seuls peuvent tout à fait suffire. Voilà. Alors, après, c'est une idée. La banane va nous permettre quand même de tenir jusqu'au déjeuner. Alors après, puisque vous y tenez, David, on peut imaginer avoir à portée de main quelques fruits oléagineux comme des amandes ou autres qui vont permettre d'avoir la mâche aussi, le fait de mastiquer.
Qu'on met dans le smoothie.
Alors éventuellement.
Ça passe moyennement dans la paille, quand même. Il y a une paille, dans le smoothie.
Non, mais on peut le mixer aussi ou le mettre en poudre.
Oui, ça doit être bon.
Mais
ça.
On peut aussi les consommer comme ça, en ayant à l'esprit que vaut mieux attraper une amande, vraiment prendre le temps de bien la mastiquer, etc., pour avoir une satiété plus longue, que d'attraper quatre amandes d'un coup et de les avaler sans même avoir eu le temps de savoir quel goût ça a.
Alors, vous dites amande, mais ça marche aussi bien avec la noisette.
Oui, tout à fait. Tout ce qui est oléagineux dont on tire de l'huile, en fait. Les fruits oléagineux. Voilà pour le matin. Ça va?
Juste ça, ça va, oui, ça va,
allez,
oui, bon, allez, admettons.
On peut aussi se dire qu'on allège
frais,
un peu aussi
l'été.
ce petit déjeuner, dans la mesure où, comme vous l'avez dit...
On s'est jamais été non plus des petits-déj, hormis peut-être un brot, non plus.
Mais on peut alléger ce menu si on sait que dans la journée, on va avoir des repas peut-être un petit peu plus lourds, ce qui n'est pas le cas avec mes menus aujourd'hui. Mais voyez, ça peut être aussi une stratégie pour... voilà. En tous les cas, au déjeuner, je vous propose, c'est très en vogue ce genre de plat, mais moi j'aime bien l'idée d'avoir... Vous savez ce qu'on appelle un bol. Alors, un bol B-O-W-L, c'est-à-dire un contenant qui pourrait ressembler à une assiette creuse un petit peu importante et dans laquelle tout va être joliment, vous savez, l'impact de la vue sur notre appétit, etc., où tout va être joliment installé. Ça nous permet, ce genre de plat, de gérer les volumes de chaque famille d'aliments. Donc, ça veut dire qu'on peut y mettre, par exemple, des tomates, des concombres, d'autres légumes de saison, par exemple. On peut y mettre un petit peu de féculents. Alors, par exemple, les pois chiches, parce que les légumineuses, je le rappelle, sont à inviter à notre table deux, trois fois dans la semaine, c'est pas mal. Et puis, on peut mettre, c'est là où interviennent mes crevettes, quelques crevettes, mais du coup, dans ce volume que représente le bol, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Vous savez que la famille viande, poisson, œuf, c'est souvent une famille sur laquelle on dépasse, si tant est qu'on l'aime et qu'on en consomme. Donc le fait de raisonner comme ça, c'est le volume en fait qui va nous amener la satiété plus que presque l'énergie qu'il va y avoir dans notre assiette. D'accord ? Donc 5, 6, 7 crevettes comme ça décortiquées, c'est joli.
C'est bien déjà, mais pour une personne. Hein,
oui, plusieurs, tout à fait. Ouais.
Ouais, okay. Et en termes d'assaisonnement, c'est une question que je me posais là. L'assaisonnement.
Alors on peut la faire de façon traditionnelle avec par exemple de l'huile d'olive ou autre. Si on veut limiter un petit peu les matières grasses, on peut utiliser aussi de bon vinaigre ou du citron, ou mettre pas mal d'herbes aromatiques ou d'épices, enfin comme on veut, voire même mettre à minima un petit peu de jus d'orange par exemple, là, si on aime le sucré salé, vous voyez, faire du liquide autrement qu'avec la matière grasse qui en effet ne va pas changer le volume de notre assiette, mais qui va nous permettre d'avoir un apport énergétique qui soit quand même un peu plus faible.
Ah oui.
Et avec, j'avais envie de vous proposer de faire, de découper des petits concombres en rondelles relativement fines, et à côté de faire un petit caviar d'aubergine. Alors, c'est tout simple à faire, hein. Vous profitez la veille que votre four soit allumé pour autre chose, vous mettez les aubergines avec leur peau juste coupée en deux, et quand elles sont cuites, vous retirez la chair seulement que vous mixez, alors avec de l'ail si vous aimez ça, peut-être un petit yaourt nature par exemple, et donc ça fait le petit toast sympa qui nous amène aussi un petit peu de mastication.
Pas de VPO hein, pour l'instant dans ce... Dans
ah
ce...
si
Ou quoi
bah, les crevettes.
Ah, le crevette. Ah oh, oui, pardon. Oh, oui, si, crevette, si, c'est généreux.
Et les crevettes, oui, c'est généreux quand même. Hein, je vous rappelle que dans les études, on considère que le volume sur la satiété va être, vous savez, une fois on en avait discuté, va être au moins, voire plus important que l'énergie. On sera plus calé avec, si je schématise, avec une pomme, bien qu'il y ait moins d'énergie, qu'avec un petit carré de chocolat, avec le même nombre de calories.
Ou avec une pomme mixée en pomme panne, etc. etc., etc.
Tout est... voilà. Quand on veut faire un petit peu attention, puis l'été souvent... Voilà, on n'a pas envie forcément de préparation trop lourde, chaude, etc.
Un petit dessert, un petit... Non,
pourquoi petit... pas, mais je veux dire par là qu'il ne faut pas non plus se forcer à avoir un petit dessert. Ainsi, le volume, c'est toujours la même histoire, s'interroger, est-ce qu'après un volume comme celui d'un bol, est-ce que vraiment j'ai encore faim ? Et sinon, on peut décaler éventuellement ce qu'on avait prévu au dessert, pourquoi pas, au goûter, ou bien, si ça nous suffit, attendre le soir, pourquoi pas. Alors, justement, pour le dîner, j'espère en tous les cas vous faire plaisir avec le dessert. Et vous allez comprendre pourquoi le midi, j'ai choisi aussi quelque chose qui est plutôt du registre du léger, ou en tous les cas pas ni très gras, ni très sucré, bien sûr. Donc, je commencerai par un petit gazpacho de tomate, hein, parce qu'encore une fois, ça hydrate, c'est de saison, c'est frais, c'est sympa. Ça permet aussi d'avoir une part de légumes. Et puis, je continuerai avec des tartines poire noire et gorgonzola. C'est tout simple, hein. Par exemple, hein, on mélange le gorgonzola avec de la ricotta un petit peu, on met ça sur des tranches de pain, ça peut nous servir à passer le pain de la veille qui est peut-être un petit peu moins frais. On peut couper une poire en fines tranches et puis le mettre sur les tartines, et si on a envie, on peut mettre un petit peu de noix concassée ou un petit peu de miel, et puis on peut servir ça si on a envie avec une petite salade, voilà.
Donc sucré salé là, donc.
Alors on n'est pas obligé de mettre le miel, hein.
Ah,
mais
oui, et la poire aussi.
Et la poire, oui, tout à fait. Oui, sucré salé par exemple. Après, si on n'aime pas le sucré salé, on fait différemment. On met des tomates à la place de la poire par exemple, et ça marche très bien aussi.
D'accord.
Et puis pour le soir, du coup, moi j'avais prévu un petit dessert là pour le coup, et toujours dans cet esprit de frais et de plutôt léger, je me disais qu'un petit sorbet. Moi j'aurais pris citron.
Ah pareil.
Vous aussi, voilà. Ah, ouais. Le sorbet en fait est Et c'est de l'eau, du fruit et du sucre. Hein, donc, si je passe au registre glace, eh ben, on rajoute du lait. Si je repasse au registre crème glacée, on rajoute de la crème. Et puis, toutes les glaces dans lesquelles on va trouver des fruits secs ou des copeaux de chocolat ou autre, effectivement, à chaque glace, on monte d'un cran dans l'énergie. Donc, d'essayer de faire soi-même ou d'acheter des sorbets, il y en a qui sont franchement très... délicieux, c'est sympa, et puis on peut s'autoriser un petit biscuit tout léger, je veux dire
une langue
léger.
De chat.
Exactement, ou un Mikado, quelque chose qui pèse 2, 3, 4 grammes, voilà, qui soit juste pour le plaisir et qui n'entame pas notre équilibre de la journée.
Très bien le dessert, hein. Très très bien.
Voilà.
Et ben c'est, voilà, c'est le menu et le dernier de la saison, menu de ce mois de juillet, tout dans l'équilibre, faut le dire. Voilà, tout est pensé de manière à, on peut le manger pendant une semaine, ce menu, et c'est parfait.
Oui, on va s'en lasser quand même, mais dans c'est l'absolu, possible. Si on change le contenu du bol, B-O-W-L, oui.
En tout cas, c'est toujours une bonne occasion de nous donner des idées, si ce n'est sur le menu en entier, mais sur des propositions alimentaires. Merci Karine.
Avec plaisir.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine et la suite du programme. Un peu de musique et tiens, je n'ai pas annoncé Didier. C'est Didier Vallet cette semaine, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie. Didier Vallet, après une rapide musique.
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron. CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Le mag Aveyron, le mag de début de semaine, santé, bien-être, fleurette, pâquerette, assiette aussi, puisque tous les lundis, en ouverture d'édition de magazine d'actualité, c'est Karine Justeau qui intervient et qui parle de nutrition, de diététique, d'équilibre alimentaire. Et une semaine sur deux, on parle de plantes aromatiques et médicinales ou de médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on tombe sur la case Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie, un univers que l'on explore avec vous, Didier, depuis facilement un petit peu plus d'un an maintenant sur notre antenne. Il y a deux semaines, c'était la prêle et l'ortie. L'ortie qui revient régulièrement dans votre discours, ô combien précieuse, qui a plein de vertus, l'ortie,
ah oui,
malmenée, malmenée par notre société, et pourtant, on peut en faire plein de choses. La prêle et l'ortie, on avait aussi abordé les possibilités de purin avec ces plantes, pour oui. Protéger aussi les autres végétaux.
Surtout qu'avec la saison que nous avons, là, les maladies cryptogamiques, les champignons, genre, les maladies type mildiou, oïdium, sur les courges, sur les courgettes, le mildiou sur les pommes de terre, sur les tomates, c'est quand on est dans des périodes comme on a eu là, ce printemps et ce début d'été avec... de la chaleur, de l'eau, des orages, des choses comme ça, les champignons ont tendance à monter un petit peu dans le végétal au lieu de rester dans le sol, et on a des maladies. Donc là, il faut vraiment utiliser l'ortie, la prêle en décoction ou même en purin, mais moi j'aime bien l'utiliser en tisane ou en décoction pour en prévention contre ces maladies cryptogamiques. Donc là, c'est déjà un petit peu tard, début juillet, mais on peut encore le faire. Voilà, faut maintenir l'effort.
Au-delà de la prévention, après, c'est le soin. Qu'est-ce qu'on y met dans le soin, justement, pour ces maladies, le mildiou? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Peut-être qu'il n'y a rien à faire. C'est là, c'est installé.
Oui, mais on peut continuer. C'est-à-dire que si vous voulez, la prêle et l'ortie, c'est vrai que c'est de la prévention. C'est comme quand une maladie est installée, c'est beaucoup plus difficile de la faire partir que d'éviter qu'elle arrive. Mais l'ortie, la prêle marche aussi quand même sur quand la maladie est là, mais avec un pourcentage. Mais même la bouillie bordelaise qui est utilisée traditionnellement, quand il y a une grosse attaque de mildiou, la bouillie bordelaise peut être trop tard. Hein. Ça s'utilise aussi un petit peu en prévention quand même. Donc après, quand la maladie est là, ça devient plus difficile quand même. Hein.
On est un peu à surveiller ce qui se passe dans le jardin et on aimerait bien voir le plus beau jardin de la planète, même s'il faut pas grand chose pour se dire que ce qu'on a mis là en terre, en tout cas pour nous, c'est ce qu'on va manger issu de notre potager, une petite tomate, ça va être la plus belle et la meilleure tomate de la planète parce que c'est nous, elle nous appartient. Mais j'en étais sur les engrais. Qu'est-ce qu'on peut, des engrais naturels qu'on peut, comment dire?
En fait, j'aime pas trop le terme engrais.
Ah oui.
Parce que quand on met un engrais, je parle pas des engrais chimiques, mais même des engrais organiques, on apporte de la nourriture. C'est pour apporter de la nourriture à la plante. Or, la plante, normalement, elle a sa nourriture dans le sol. Oui. Normalement, le sol, s'il est sain, il a ce qu'il faut pour faire pousser les plantes.
C'est notre côté plus.
Donc, je dirais pas engrais, je dirais plutôt activateur de vie. C'est-à-dire, il faut apporter un peu de la matière organique, oui, mais pas pour faire pousser les plantes, mais pour activer la vie du sol. C'est-à-dire, dans un sol, quand il y a de la matière organique brute, par exemple, une bouse de vache, une vache dans un pré, elle va faire des bouses, il y a de la matière organique pure, et à ce moment-là, il y a plein de petites bestioles, déjà une certaine faune, avec le bousier qui vient dans la bouse et qui va la transporter en faisant ces petites boules de bouse qui poussent comme ça, laborieusement d'un bout à l'autre du champ, et puis plein d'autres bêtes qui viennent décortiquer tout ça. Ensuite, il y a des champignons qui viennent dégrader la matière organique, et tout ça, ça va dans le sol pour donner ce qu'on appelle un humus, qui se mélange, qui s'associe avec l'argile du sol. C'est mieux d'avoir un sol argileux, ce sont les sols les plus riches quand même. Pas trop argileux, parce que c'est difficile à travailler, mais il faut quand même un petit peu d'argile. Un sol sans aucun argile, c'est quand même très difficile. Du sable, cultivé dans du sable, c'est un peu plus délicat. Et donc voilà, il faut qu'il y ait de la matière organique brute qui va faire que tous les micro-organismes, alors j'ai parlé des champignons, mais il y a des bactéries, tout ça, ça va se mettre en marche pour dégrader la matière organique. Et c'est toute cette vie du sol qui va faire un sol et qui va faire pousser la plante. C'est pas de lui apporter. Si vous voulez, c'est comme l'alimentation pour nous. Souvent, on a l'impression que, on peut vivre sans manger. Il y a des ascètes qui vivent sans manger. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, où on meurt, c'est vivre sans sommeil. Il faut un minimum de sommeil et il faut un minimum d'eau, parce qu'on est constitué de 90% d'eau, donc il faut un petit peu boire. Mais manger, il y a des gens qui ne mangent pas. La nourriture, elle sert à quoi? Elle sert pas à faire de la matière, à faire de la substance, elle sert surtout à faire à stimuler des forces. C'est-à-dire que quand on dégrade une substance, une carotte, si on vous injectez un jus de carotte directement en intraveineux, vous faites une embolie, vous mourrez, c'est poison. il faut que ça soit passé par l'organisme, par tout le système digestif, avec la flore et la faune qu'il y a, et que ça soit dégradé. Et toutes les forces qu'on va mettre en jeu, là, c'est ça qui nous fait grandir, en fait, qui nous fait évoluer. Donc, dans le sol, c'est la même chose. On met en jeu des forces. On n'apporte pas de la nourriture aux plantes, on créer des forces de vie dans le sol. Et c'est vraiment la base de la biodynamie. C'est pour ça qu'on utilise des substances en quantité. Je vous ai parlé de 100 grammes à l'hectare pour la bouse de corne. Je vous ai parlé de 4 grammes à l'hectare pour la silice de corne. C'est rien du tout. On voit là, on travaille sur les forces de vie.
Le point de départ de votre réponse était mon intervention autour des engrais. Et c'est exactement pour ce type de réponse qu'on aime vous recevoir tous les 15 jours, Didier, dans les studios, et je m'aperçois que j'ai grignoté de par mes questions comme ça, curieuses, innocentes, une grande partie du temps de la chronique du jour. Vous souhaitiez, vous me l'avez dit avant qu'on ouvre les micros, parler de la Saint-Jean, parce que c'était la semaine dernière, le week-end, celui d'avant. Il nous reste, je suis désolé.
Peut-être quelques minutes, mais c'est pas grave. Donc là on est début juillet, la Saint-Jean, donc c'est le 24 juin. Et c'est quand même un moment important, parce que je vous ai souvent parlé dans les rythmes de l'année, c'est le moment, en fait, où le soleil va se mettre à redescendre. C'est-à-dire le moment où les jours vont raccourcir à partir de la Saint-Jean. Depuis Noël jusqu'à la Saint-Jean, on était dans un rythme ascendant, c'est-à-dire tout tire les forces vers le haut, et maintenant, à partir de la Saint-Jean, on va aller, les forces vont aller de nouveau vers le bas, vers le sol, pour entrer dans la terre. Alors, doucement, hein, bien sûr. Oui. Là, on n'est qu'une semaine de la Saint-Jean, mais c'est quand même le point d'inversion qui est important. Et avant, on faisait des feux, les feux de la Saint-Jean, ça se perd un petit peu, mais c'était en relation justement avec ce soleil, on pourrait dire, cette maturité qui allait se mettre en ligne. C'est là que les fruits vont commencer à mûrir. Bon, bien sûr, il y a des fruits qui sont avant, hein, mais c'est là que les céréales mûrissent. C'est là qu'on est maintenant dans un processus de mûrissement, de maturation. On pourrait dire que dans une année, au printemps, c'est la naissance de la nature. Après, on est dans l'adolescence. Et là, on arrive dans l'âge adulte pour aller petit à petit vers l'automne et l'hiver qui pourrait correspondre à la vieillesse, en fait. C'est-à-dire que les plantes sont arrivées dans une maturité et vont pouvoir recommencer un cycle. Donc, c'est un petit peu poétique, peut-être, comme image, mais ça correspond vraiment, vraiment à ce qui se passe dans la nature. Donc, c'est ce moment de la Saint-Jean, et j'en parlerai la prochaine fois. Il y a vraiment beaucoup de plantes qu'on récolte. Nous, au Jardin de Jam, là, on est vraiment... Les séchoirs sont pleins. Il y a tout qui fleurit autour de... Alors, bien sûr, il y a l'herbe de la Saint-Jean, Saint-Jean, la millepertuis, mais il y a plein d'herbes qui sont en fleurs là, fin juin, début juillet, donc voilà un petit peu, il faut réfléchir de nouveau à ces rythmes, et vraiment l'inflexion qui tournera vraiment sur l'hiver, ce sera vers la Saint-Michel. Là, à la Saint-Michel, fin septembre, là, vraiment, les jours... début juillet, les jours raccourcissent, mais ça ne se sent pas. Ça se sentira vraiment à partir du 15 août. Parce que c'est des petites variations, c'est de l'ordre de secondes ou de minutes, mais à partir du 15 août, de la fête de l'Assomption, la fête catholique de l'Assomption, on a vraiment les jours qui décroissent beaucoup plus vite, et à partir de la Saint-Michel, de fin septembre, là on sent... malheureusement que les jours courts de l'hiver vont bientôt arriver, bien qu'on ne soit qu'à l'automne.
Il nous reste vraiment 20 ou 30 secondes, Didier. Week-end prochain, il n'y a pas un atelier qui est prévu à nouveau, où vous terminez la session?
Il y a un atelier sur la distillation, donc la distillation, l'extraction par la vapeur des principes actifs de plantes. Alors, on va voir un petit peu, il y a différentes plantes à distiller. On choisira juste au moment de la journée pour savoir si on distille de la lavande ou de l'agassage. Voilà, bon, il y a l'embarras du choix.
les jardins de Jam pour tous les renseignements. Dernier atelier de la saison, c'est le week-end prochain.
Avant-dernier.
Avant-dernier, pardon.
Fin juillet, 23 juillet, sur essayer d'apprendre à avoir une certaine quantité de plantes, une petite
les
pharmacopée,
oui.
Les fleurs sur les mots.
Oui.
D'avoir une petite pharmacopée d'une dizaine de plantes pour soigner les petits maux du quotidien.
Merci Didier, excellente journée, à dans deux semaines.
À dans deux semaines, au revoir David.
C'était le mag de ce début de semaine, mag sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. La suite du programme dans un instant.
CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.